Et bienvenue dans cette seconde vidéo sur ma chaîne. Le 3 est maintenant terminé, donc j'avais fait mes prédictions dans la précédente vidéo, donc vous pourrez retrouver le lien par ici. Il est temps de faire un topo de ce qui s'est réellement passé pour Nintendo, qu'est-ce qui a été réellement annoncé, avec une petite pointe d'analyse, et je vous ai concocté une petite surprise en fin de vidéo pour ceux qui veulent pas seulement se concentrer sur Nintendo. À l'occasion de cette E3, la première fois qu'on a entendu parler de Nintendo, c'est pas pendant la conférence, on va dire, de Nintendo, mais plutôt pendant la conférence Bethesda. Le Skyrim, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, a été un petit peu plus présenté à travers une bande d'annonces qui a présenté deux véritables nouveautés pour cette remasterisation, ce portage plutôt, qui sera compatible avec tous les amiibo, absolument tous, et comme dans Breath of the Wild, chaque amiibo offrira un coffre, un butin, contenant on ne sait pas quoi encore, on peut imaginer de l'équipement plus ou moins rare. Tous les amiibo Zelda, que ce soit de la série Smash Bros, Anniversaire ou Breath of the Wild, eux ils offriront la tunique de prodige, la tunique bleue de Link dans Breath of the Wild, la Master Sword, le bouclier Hylien. Après, on a appris également qu'il y aurait du motion gaming à la manière d'un Skyward Sword. On voit que Skyrim est en train de se Zeldaifier pour toujours plus d'immersion. Donc, on pourra combattre à l'épée, avec le bouclier, à l'arc également, on a vu. Bon, ça vaudra ce que ça vaut. On pourrait également crocheter les serrures des portes, comme on le faisait avec les analogues sur les précédentes versions. La question, c'est est-ce que ça, ces petites nouveautés, qui sont pas grand-chose, finalement, ça va suffire à nous refaire passer à la caisse, nous, joueurs, 6 ans après la sortie de l'épisode de Skyrim. Le jeu, pour la première fois, sera jouable en nomade, et c'est ça qui risque réellement de sauver le titre. Je suppose que c'est ce facteur-là qui a convaincu Bethesda de faire ce portage. Donc c'est une bonne chose, encore un tiers qui vient s'installer sur Switch, pardon. Malheureusement, on n'a toujours pas de date plus précise en ce qui concerne sa sortie. Donc toujours automne 2017, on n'a rien de plus précis. Après quoi, on a entendu parler de Nintendo, bien sûr, à la conférence Ubisoft. Là, on le savait, il était temps de le présenter. Je l'ai dit dans la première vidéo, Mario plus de lapin crétin Kingdom Battle, donc c'est le nom français. Le jeu avait tellement fuité, il était vraiment grand temps de le présenter, d'autant plus qu'il va arriver très très prochainement. Ça c'est une bonne nouvelle et ça restera vraiment dans les moments les plus marquants de cette E3 avec Miyamoto et Yves Guillemot avec leur blaster sur scène. En plus de ça, on s'en souvient, Miyamoto a remercié, a félicité en tout cas le réalisateur du jeu, David Soliani, qui était très ému. C'était vraiment un beau moment de cette E3 2017. En plus de ça, ça représente quand même une image lourde de sens pour Nintendo qui renoue des liens avec un éditeur quand même majeur. On a vu qu'Ubisoft cette année, ils ont gagné globalement le match des conférences. C'est quand même un éditeur en majeur dans l'industrie. Pour présenter le jeu, Ubisoft a présenté une bande d'annonce, comme ça on a pu voir un petit peu l'univers qui a l'air complètement fou, et le gameplay. Pour rappel, c'est un crossover entre l'univers des lapins crétins et de Mario. Donc c'est un RPG tactique à la XCOM, pour ceux qui connaissent, avec donc une certaine profondeur dans le gameplay. Il s'annonce déjà plutôt sympathique d'après les premiers retours qu'on a eu des journalistes qui ont eu la chance de le tester lors de cette E3. Ça manquerait peut-être un petit peu de difficulté. Le but, de notre côté, étant de séduire le grand public, bien sûr. Donc on en retire quelque chose d'accessible, mais avec une certaine profondeur de gameplay. Donc là, encore une fois, hop, on fait le lien avec Blizzard. On verra le jeu une fois en main, mais on retrouve le credo de Blizzard, easy to learn, hard to master. Lui sortira le 29 août, comme je vous disais, c'est vraiment très proche, là, ça arrive à la fin de l'été. Toujours pendant la conférence Ubisoft, on a entendu parler d'une nouvelle licence qui propose quelque chose d'assez original, puisque c'est un space opéra, donc un monde ouvert dans l'espace. Mais l'originalité, comme je le disais, c'est le NFC, Near Field Communication. C'est comme les amiibo, on place une figurine sur un capteur qu'ils ont appelé le Smart Building. C'est un accessoire qui est tac, fixé à la manette et qui permet de customiser une figurine vaisseau, un vaisseau en figurine, avec des éléments qui seront payants, bien sûr, et qui apparaîtront en jeu directement quand on les posera sur la figurine, on les ajustera sur la figurine. Le principe est séduisant. C'est encore très peu de choses sur le jeu, mais c'est sûr, ça va s'avérer certainement coûteux. Le jeu a plutôt un bon positionnement parce que c'est une esthétique pour les vaisseaux, bien sûr, plus mature que Skyrim, donc ça s'adresserait à un public un peu plus adulte. Et en plus de ça, c'est un gameplay qui est physique, qui est beaucoup plus impactant que les amiibo qui se contentent de débloquer du contenu, un petit peu de contenu par-ci par-là. Là, vraiment, on interagit avec le jeu physiquement. C'est une véritable nouveauté, mais encore une fois, ça risque de s'avérer coûteux. Donc, lui sortira en automne 2018 sur PS4, Xbox One et Switch. Après quoi, on sait que Just Dance 2018 arrivera sur la Switch. Pour rester sur les tiers, on a su également, pendant le Nintendo Spotlight, que Rocket League de Psyonix, pardon, qui est l'éditeur et développeur, a été enfin annoncé sur Switch. Psyonix étudiait la question d'une conversion sur, du moins d'un portage sur Nintendo Switch. Aujourd'hui, c'est chose faite. En plus de ça, il y a 32 millions de joueurs actuellement sur le jeu, donc c'est absolument énorme. Ça risque de très bien marcher avec cette console hybride. Il y aura plusieurs éléments exclusifs à cette version, comme on pouvait s'y attendre. Donc des objets de customisation, on a vu notamment une casquette pour le véhicule de Mario, une casquette Luigi. Il y aura des véhicules, on peut imaginer peut-être F-Zero, comme on a eu dans Mario Kart 8 Deluxe, et également des nouveaux modes de jeu. Donc là, on n'a pas plus d'informations, qui sera jouable avec d'autres joueurs qui ont d'autres versions du jeu, donc Xbox One ou Steam sur PC. Malheureusement, Sony n'a pas souhaité permettre cette possibilité aux joueurs. Il sera aussi jouable, et ça c'est une très bonne chose pour la Switch, à 8 en local, et lui il est prévu pour l'hiver 2017. On continue avec encore deux jeux éditeurs tiers. On a eu notamment une nouvelle bande-annonce de Sonic Forces qui dévoilait 4 méchants venant d'anciens jeux Sonic, donc on a vu notamment Shadow et Metal Sonic parmi les plus emblématiques, et également une nouvelle fonctionnalité très intéressante pour un jeu Sonic, puisqu'il s'agit de la possibilité de créer son propre personnage, de le customiser. Donc du coup, il y aura 3 personnages jouables: le Sonic d'époque avec la phase en 2D à la Generations, le Sonic moderne avec lui les phases en 3D, et le personnage customisable. Il est prévu pour cet hiver 2017. Enfin, et ça c'est un titre un peu plus mineur, on va dire, c'est Fate Extella The Umbrella Star, qui est lui aussi prévu sur Switch, était déjà sorti sur PS4 et Vita au début de l'année. Maintenant, on a un portage sur Switch, donc c'est une très bonne chose. C'est un beat'em all, il sortira le 21 juillet sur Switch en Europe. On voit déjà qu'il y a beaucoup de tiers. Ils sont encore un peu timides, bien sûr, mais en tout cas, ils sont présents. Et ça, c'est une très bonne chose. On se souvient que ça avait quand même coûté la vie à la Wii U, et ça avait mis un coup à ses ventes, bien sûr. On va passer tout de suite au jeu First Party, puisqu'on va parler du Nintendo Spotlight, qui a eu lieu le 13 juin dernier, à 18h. La présentation, comme on l'avait vu dans le programme, dans la précédente vidéo, elle était centrée sur la Nintendo Switch. Comme prévu, on a entendu parler de Xenoblade Chronicles 2, puisque c'était le premier jeu qui a été un peu plus présenté lors de ce Nintendo Spotlight. On a eu une bande d'annonce dans laquelle on découvre le monde ouvert, donc Elysium. On ne sait pas grand chose, on a vu un petit peu de gameplay également, donc ça a l'air d'être un RPG totalement classique, qui rappellera son prédécesseur sur Wii. Cette fois, on a un visuel beaucoup plus manga, qui s'éloigne du premier épisode, qui se voulait plutôt réaliste, lui. Malheureusement, on a également appris qu'il sera uniquement doublé en anglais, et on a cette fois une date de sortie un peu plus étroite, puisqu'on parle de l'hiver 2017. La conférence est poursuivie avec un Kirby, qui lui est prévu en 2018, et qui sera jouable à 4, donc c'est une très bonne chose pour la Switch. On n'a pas appris énormément de choses, on a vu quelques images de gameplay, mais rien de bien folichon pour ce Kirby. Après, c'est le président de The Pokémon Company qui a dévoilé que le développement d'un RPG Pokémon sur Switch avait commencé. On sait qu'il sera développé par Game Freak, le développeur historique des jeux canoniques de la licence. Le président ne fait pas mention d'un Pokémon canonique, on peut très bien penser à un donjon mystère, mais bon, c'est quand même sous-entendu, ça serait un petit peu bête de s'en priver, alors qu'ils ont vraiment la console parfaite pour faire un Pokémon à la fois beau et profond en termes de gameplay. Là, on n'a pas de date de sortie du tout, on sait que ça arrivera certainement en 2018 pour ce Pokémon version Switch. Juste après, et là encore une très grosse annonce pour Nintendo, Metroid Prime 4, qui était énormément attendu par les joueurs. On a eu un logo, une petite musique, et ça a suffi pour déchaîner absolument tout Internet. Grande surprise, le jeu n'est pas développé par Retro Studios du tout, mais une équipe chez Nintendo of America. On sait quand même que Kensuke Tanabe, donc qui est producteur de la trilogie Metroid Prime, supervise le projet. Donc là, c'est rassurant. En revanche, on n'a pas de date de sortie pour ce jeu. Après, et dans la même veine que le Kirby que j'évoquais précédemment, on a eu un Yoshi présenté qui fait vraiment beaucoup penser à un Yoshi Woolly World. On aurait pu penser à un portage, mais en réalité ça a l'air d'être un tout nouveau jeu qui est donc pareil comme le Yoshi Woolly World, un jeu de plateforme en 2D, mais cette fois avec une petite profondeur dans les décors. On sait qu'il tournera sous Unreal Engine 4 avec un visuel qui est plutôt à la sauce Woolly World, les nœuds, mais aussi avec des textures un peu plus papier et carton. On n'a pas eu d'informations sur les développeurs, mais on peut se douter que ce sera Goodfeel qui est aux manettes, puisqu'ils avaient développé le Yoshi Woolly World à l'époque et le Kirby au fil de l'aventure, qui est voilà, dans la même veine avec des pattes graphiques assez originales. On voit qu'il ne s'agit pas d'un portage, mais on ressent encore la stratégie de Nintendo de porter un maximum d'expériences Wii U sur Switch pour remplir le catalogue rapidement. Donc lui, il est prévu pour 2018, sans plus d'informations. Après, on a eu plus d'infos sur Fire Emblem Warriors. Vous savez, c'est le Musou à la Hyrule Warriors, qui est développé d'ailleurs par Omega Force, qui sont les mêmes types qui travaillent sur Hyrule Warriors. Lui sortira sur Switch, mais aussi également sur Nintendo 3DS. Mais on n'a pas eu d'informations sur cette version-là, à cette E3. Par contre, on a une nouvelle bande-annonce présentant le scénario et quelques personnages majeurs pour cette version Switch. Donc des personnages majeurs de la saga, et deux personnages qui sont propres à cet épisode. On a su également qu'en termes de gameplay, ça respectera tant bien que mal la relation triangulaire des armes, et également la relation de force entre les différentes classes de Fire Emblem. On sait également que Intelligent System, les développeurs historiques de cette saga, s'assurent de la cohérence narrative entre les différents personnages issus des autres épisodes de la saga. Le jeu sera entièrement doublé, ce qui est une bonne chose, mais uniquement en anglais, donc pour les puristes, c'est un petit peu dommage. On a également eu deux amiibo qui ont été présentés pendant le Nintendo Treehouse Live, donc un amiibo de Chrome et un de Tiki, qui seront certainement disponibles le même jour que le jeu. On n'a pas eu plus de précisions, comme je le disais, sur la date de sortie occidentale, toujours prévue en automne. Par contre, on sait qu'il arrivera le 28 septembre au Japon. C'est pas vraiment étonnant, puisque le Japon est... Enfin, c'est un jeu plutôt calibré pour le Japon. Après quoi, on a eu plus de détails sur les DLC de Breath of the Wild. On a su que le premier s'appellerait Les épreuves légendaires. Ça regroupe une série d'épreuves permettant de doubler la puissance de la Master Sword via une suite de défis dans des salles spéciales pour réaliser ces épreuves. On sera totalement désarmé, totalement nu. On aura également le mode expert qui va être implémenté, un mode empreinte qui est très intéressant puisque c'est une fonctionnalité qui permet de suivre les déplacements qu'on aura effectués sur la map. Donc, pendant les 200 heures qui suivront ces déplacements. Et du coup, c'est très intéressant puisqu'on pourra voir quelles zones on n'a pas encore eu la chance de visiter. Donc c'est une fonctionnalité qui risque d'être reprise par de nombreux RPG par la suite, parce que vraiment c'est quelque chose de très intéressant en termes de gameplay, en tout cas beaucoup de monde ouvert. On a également eu une présentation de l'amulette de téléportation qui permettra à Link de poser un point de téléportation n'importe où sur la map. Il sera unique, ce point de téléportation nous permettra, voilà, ce sera beaucoup plus pratique de se déplacer avec ça. Également, on a vu plus en détail les nouveaux équipements, dont notamment le masque Korogu qui permettra de trouver plus facilement les fameux Korogu. Lui, il sera disponible le 30 juin, donc c'est à la fin du mois, c'est très bien pour Nintendo. Après quoi, on a une présentation d'une seconde DLC très courte qui s'appelle l'Ode au Prodige. C'est une bande-annonce dans laquelle une légende est contée par Azarim. On se souvient, Azarim, c'est le piaf qui est musicien, qui sera centré donc sur les 4 prodiges de Breath of the Wild et qui permettra, on imagine, de revivre des histoires d'il y a 100 ans, puisqu'à l'époque où ils étaient vivants, ces 4 prodiges. On aura également un donjon inédit et de nouveaux défis. Donc ça, c'est une bonne chose. On n'a pas eu énormément de détails sur ce DLC. En revanche, 4 amiibo ont été annoncés, les 4 prodiges, bien sûr, sans pas de prix précis ni de fonctionnalité pour le moment. On verra bien ça très prochainement. Et donc le DLC et les amiibo seront disponibles eux cet hiver. Donc on voit que ces deux DLC viendront solidifier les bases d'un univers qui se veut déjà persistant et qui a été créé pour durer vraiment dans le temps, à la manière d'un World of Warcraft par exemple, qui est beaucoup plus ample, mais en tout cas on voit cette volonté de Nintendo de faire perdurer son titre dans le temps. Et maintenant on va parler du titre qui a complètement tué le game, qui a battu tous les records, puisqu'il s'agit de Super Mario Odyssey. On a appris absolument énormément de choses sur le jeu. On a eu une nouvelle bande-annonce tout d'abord pendant le Nintendo Spotlight où l'accent était mis plutôt sur l'exploration et le gameplay. On a eu la présentation de nouvelles fonctionnalités de gameplay. On savait déjà que la casquette pourrait servir d'arme. Aujourd'hui, on connaît son nom puisque ça, il s'appelle le Capi. C'est un chapeau qui vient fusionner avec la casquette de Mario et lui permettre donc de s'en servir d'arme, mais aussi permettre une fonctionnalité très intéressante, la chapimorphose, pour prendre le contrôle de toutes sortes de choses, que ce soit des véhicules, des animaux, des ennemis, pendant une durée limitée bien sûr. Et donc c'est vraiment la fonctionnalité qui a été mise au cœur de cette vidéo de présentation. On a également vu une nouvelle fonctionnalité de gameplay intéressante, puisque en rentrant dans certains tuyaux, Mario pourrait explorer des zones en 2D avec un design pixelisé pour ce Mario. Ça rappelle totalement A Link Between Worlds sur 3DS avec Link qui pouvait longer les murs en peinture. On a également appris que le vaisseau s'appellera Odyssée, ça on le savait déjà, mais qu'il sera personnalisable en achetant des éléments auprès des différents marchands du jeu. Une grande panoplie de costumes sont également disponibles, rappelant parfois d'anciens jeux estampillés Mario, comme Super Mario Maker ou Yoshi's Cookie. On annonce déjà un Super Mario Odyssey très très vaste, à la manière d'un Breath of the Wild, avec de nombreux mondes à explorer. On le sait, il y a New Donk City, c'est la capitale du monde, là on a vu énormément de choses. Et ce qui est drôle, c'est que la mère de cette grande ville s'appelle Pauline. Pauline, c'était le nom de la princesse qu'il devait sauver dans le tout premier Donkey Kong, où on a vu pour la première fois Mario, qui s'appelait à l'époque Jumpman. On sait également qu'il aura le Royaume des Sables. Une autre anecdote, on sait qu'il a été créé après un voyage de Kenta Motokura, qui est réalisateur du jeu, au Mexique. Donc on comprend les inspirations. Il y aura pour compléter cette offre trois amiibo, un Mario, un Bowser et une Peach, les trois en tenue de mariée, très très classe, distingués, qui permettront de recevoir de l'aide ou débloquer des costumes pour Mario. Eux, ils seront disponibles au lancement du jeu. Le jeu sera également compatible avec absolument tous les amiibo actuels, à la manière d'un Breath of the Wild, pour débloquer des costumes. Comme on peut l'imaginer, l'amiibo Dr. Mario qui débloque bien sûr le costume de Dr. Mario. Il sera jouable en coopération, donc un joueur incarnera Mario et l'autre Capi, ce fameux chapeau, cette fameuse casquette. Selon IGN, ce qui est une bonne chose pour Nintendo, c'était le jeu de cette E3 2017 devant le Spider-Man de Sony qui a tout déchiré et le Metroid Prime 4 dont on ne sait rien mais qui a également tout déchiré. On a eu également une date de sortie qui n'est pas si éloignée que ça puisque ce sera le 27 octobre 2017 pour mettre la petite fessée à Call of Duty qui ne présente rien de nouveau à lui. Après quoi, on a eu le Nintendo Treehouse Live at E3 où on a eu du gameplay surtout et des annonces de plusieurs titres 3DS dont un Metroid, Samus Returns, qui est donc un jeu de plateforme en 2D qui est à la fois aussi une refonte 3D de Metroid 2 Return of Samus qui était sorti lui en 91 sur Game Boy. Il est développé par Mercury Steam, donc c'est rassurant puisque c'est le studio qui était derrière le Castlevania Lord of Shadow, donc ils savent comment développer un Metroidvania, qui sortira le 15 septembre 2017. Après quoi, on a une présentation pour la première fois de Mario et Luigi Superstar Saga plus les sbires de Bowser, qui est en réalité un jeu qui était sorti sur GBA en 2003, qui s'appelait juste Mario et Luigi Superstar Saga. Il est développé comme à l'époque par Alpha Dream, qui est le développeur historique des RPG sauce Mario et Luigi. Il y a eu plusieurs nouveautés ajustements, notamment au niveau du scénario, avec un scénario annexe qui suivra les sbires de Bowser, et un nouveau système de combat. Donc on a hâte d'en apprendre plus, ainsi que deux amiibo très sympathiques, des ennemis de Mario, donc Goomba, ennemi historique de Mario, et Koopa Troopa, qui auront des fonctionnalités spéciales distinctes, mais encore inconnues à l'heure qu'il est. Ils accompagneront certainement la sortie du jeu le 6 octobre 2017 en Occident. Après, et un petit jeu mineur, Sushi Striker The Way of Sushido, c'est un puzzle game action qui sortira en 2018 sur 3DS. On voit encore une fois que la 3DS n'est pas du tout en fin de vie. D'ailleurs, Régis Fils-Aimé l'a rappelé à l'occasion de ce Nintendo Treehouse Live. On voit qu'en plus de ça, l'arrivée de titres aussi importants que ce Metroid Samus Returns, qui a lui aussi un petit peu retourné Internet sur 3DS, prouve que Nintendo compte bien encore perdre pérenniser cette console et la faire durer dans le temps. On va passer à une partie un peu plus analyse, puisqu'on se rend compte déjà avec cette E3 qu'on a une belle visibilité maintenant sur la fin de l'année et même le début de l'année prochaine, avec un catalogue Switch encore plus étoffé, avec un jeu first party par mois, une première année vraiment très très forte pour la Switch. Peu de consoles peuvent se targuer d'avoir une année aussi incroyable. C'est pas en tout cas tous les ans qu'on peut se targuer d'avoir à la fois un Mario, un Zelda, un Xenoblade, les trois jeux d'une ampleur incroyable. Et on le voit, 2018 s'avance tout aussi génial avec un Pokémon certainement sur Switch, un Metroid, un Fire Emblem encore une fois d'ampleur. On sent que Nintendo a vraiment appris des erreurs qu'il avait commis avec la Wii U. Vraiment c'est un E3 je trouve très rassurant pour les joueurs, avec Nintendo qui revient de la meilleure des manières dans la course. Voilà ce qui conclut cette vidéo d'analyse un petit peu de l'E3 de Nintendo. Merci en tout cas à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Et donc voilà, comme je le disais, pour ne pas évoquer que Nintendo, je vous ai préparé une petite compilation de jeux qui m'ont marqué pendant cette E3. En tout cas, si vos avis divergent par rapport au mien, n'hésitez pas à en débattre en commentaire, car rappelons que les diversités d'opinions sur une œuvre d'art montrent que cette œuvre est nouvelle, complexe et viable.